Corse et l'Auvergnat.
Romain Marsili,
Jérémy Gallon.
Jérémy, dimanche dernier, le 15 octobre, tu as reçu deux nouvelles qui t'ont, dans un sens comme de l'autre, bien plus ému, intéressé et bouleversé qu'elles n'ont pu me le faire. Alors, une bonne et une mauvaise. La mauvaise venant de Saint-Denis, avec la défaite du 15 de France face à l'Afrique du Sud. Il faudra d'ailleurs que tu m'expliques quand tu veux, alors peut-être pas aujourd'hui, mais la notion de fair play et de bienveillance vis-à-vis de l'arbitrage au rugby qui ne cesse de m'étonner, moi qui suis plutôt même totalement du foot, c'est un sujet. Mais surtout une bonne nouvelle venant de Pologne, et c'est ce dont on va parler plus particulièrement ensemble maintenant, la victoire de l'opposition aux élections législatives. Alors tu t'es particulièrement intéressé à ces élections polonaises. Tu t'es rendu en Pologne et depuis des mois, et on en a même parlé ensemble dans le podcast, tu me disais que c'était une élection absolument fondamentale pour la Pologne, mais aussi plus globalement pour l'Europe. Alors, ça semble pas forcément très intuitif, bien qu'on aime tous les deux la politique et nos auditeurs aussi, on suit un peu les élections partout en Europe et dans le monde. Alors, pourquoi cette élection t'intéressait et t'inquiétait autant ?
Alors effectivement, tout d'abord, je ne vais pas revenir sur cette défaite cruelle de la France contre l'Afrique du Sud. Il y aurait beaucoup à en dire, y compris sur l'arbitrage. La tristesse est telle qu'il vaut mieux ne pas en parler. Sur les élections en Pologne, je pense que c'était des élections absolument cruciales pour l'avenir de l'Europe. Et comme tu le disais, c'est pas simplement une expression ou une formule pour attirer l'attention sur ces élections. C'est la conjonction de plusieurs facteurs. Le premier, c'est que structurellement, la Pologne est aujourd'hui un des pays clés de l'Union européenne, de par sa taille, de par son dynamisme économique et sa croissance au cours des dernières années, et tout simplement de par le fait que le centre de gravité de l'Union européenne a basculé vers l'Est. Et que, en plus, avec le conflit en Ukraine, la Pologne est le pays qui est en première ligne. Donc sur le plan de la défense, sur le plan politique, structurellement aujourd'hui, la Pologne est un pilier de l'Union européenne. La deuxième raison, c'est que ce que l'on a vu depuis maintenant 8 ans, c'est-à-dire les 8 années où le parti Droit et Justice était au pouvoir, le parti PiS, c'est une dérive de ce pays vers l'illibéralisme. Et ça a été un affaiblissement qu'on sous-estime complètement, nous, en France, mais de toutes les institutions qui font l'état de droit. Et on reviendra dessus. Mais c'était absolument fondamental. Et pour beaucoup de Polonais, cette élection, si elle avait permis un troisième mandat du parti au pouvoir en Pologne, aurait finalement amené la Pologne dans une situation similaire à celle de la Hongrie d'Orban, au-delà des orientations politiques. Donc il y avait quelque chose de fondamental sur l'avenir de la Pologne. Et donc c'était la raison pour laquelle les élections du 15 octobre étaient absolument déterminantes.
Alors on va parler des résultats plus en détail, parce que c'est une situation politique qui n'est pas banale. Lorsqu'on regarde nos paysages qu'on connaît mieux, c'est une élection législative, il faut bien le rappeler, dans un pays qui a un régime semi-présidentiel avec un président par ailleurs élu au suffrage universel, élection à la proportionnelle. Chaque force d'opposition, enfin, globalement, allait séparer, c'est-à-dire que tu avais un parti de gauche, tu avais un parti centriste, tu avais le parti, la force essentielle d'opposition, celle de, le parti de Donald Tusk, équivalent Pologne du PPE, c'est-à-dire un parti centriste, libéral, atlantiste. Donc chacun y allait de son côté, mais avec bien sûr l'évidence qu'au deuxième tour, enfin on dirait en France un troisième tour, tout le monde allait créer une coalition pour lutter contre le parti au pouvoir, le PiS. Et donc les élections étaient très incertaines, les sondages étaient très incertains, puisque ça se jouait à quelques pourcentages près selon les sondages, et finalement le total des forces d'opposition est bien supérieur à celui du parti au pouvoir. D'où cette expression qui a été très employée, de bonnes nouvelles pour l'Europe et de bonnes nouvelles pour la Pologne. Alors est-ce que, selon toi, c'est une bonne nouvelle qui est durable ? On parle d'un pays, comme je le disais, au régime semi-présidentiel, c'est-à-dire qu'il y a quand même maintenant une espèce de cohabitation avec un président qui reste ultra-conservateur. Et puis est-ce que tu penses que les forces, ces différentes forces, donc de centre-droit, de droite libérale et même un peu de gauche libérale, vont-elles réussir à créer une coalition solide qui va pouvoir vraiment gouverner ?
Alors si on revient d'abord sur le paysage politique en Pologne que tu as très bien décrit, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que c'est un pays dont le paysage politique est très clairement à droite, puisque le parti qui est au pouvoir, PiS, est un parti de droite nationaliste. À sa droite, tu as un parti qui s'appelle Konfederacja, qui est un parti d'extrême droite, libertarien, qui aurait pu être un partenaire de coalition du parti actuellement au pouvoir, Pich, mais qui a fait un score assez désastreux dans les urnes. Il n'a pas dépassé les 7%. Et puis, tu as effectivement trois autres forces politiques que tu as décrites. La plateforme civique, qui est le principal parti d'opposition de centre-droit, dirigé par Donald Tusk. Et puis, un parti troisième voie, qui est un petit peu du centre, qui réunit, ça serait un peu l'équivalent d'En Marche chez nous. Et puis, ce parti de gauche, mais plutôt, voilà, comme tu l'as dit, gauche centriste. Et c'est effectivement cette alliance des trois partis qui est censée former un gouvernement. Alors, pour répondre à ta question de savoir si c'est durable, je pense qu'il faut d'abord décrire l'état de la société polonaise. La Pologne aujourd'hui, c'est une Pologne qui est extrêmement fracturée, extrêmement polarisée. Et selon des lignes de fracture, d'ailleurs, que l'on retrouve chez nous. Tu as aujourd'hui une Pologne des campagnes, une Pologne des villes de taille moyenne, qui a le sentiment d'avoir été la grande perdante de la mondialisation, qui n'a pas bénéficié de la croissance économique et du dynamisme du pays au cours des dernières années, qui est le bastion électoral du parti PiS, donc du parti de droite nationaliste qui a régné au cours des 8 dernières années. À l'inverse, tu as une Pologne urbaine incroyablement dynamique. Tu vas aujourd'hui en Pologne, tu vas dans des villes comme Varsovie, Katowice, Cracovie, Poznan. C'est des villes qui sont plein boom économique, qui ont une prospérité qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on ne connaît pas dans nos métropoles en France en termes de boom économique. Et elles, ces villes, ont voté massivement pour l'opposition. Tu as aussi une ligne de fracture générationnelle. Ce qu'il faut bien imaginer, c'est que tu as une population aujourd'hui la plus âgée en Pologne, qui au cours des trois dernières décennies a connu des bouleversements incroyables en Pologne, tant sur le plan politique, économique, mais également sociétal. C'est une société où l'Église, par exemple, est en recul de manière assez forte, où elle demeure beaucoup plus présente que chez nous, mais elle est en recul. Et donc cet électorat plutôt très âgé a tendance à voter PiS, là où la population active entre, on va dire, 29 et 55 ans, vote plutôt pour l'opposition. Et ce qui est intéressant, c'est que la jeunesse, c'est encore différent. La jeunesse, elle, est à une désillusion très forte à l'égard de la politique et s'engage plutôt dans des mouvements activistes. Et puis, une autre fracture qui est quand même importante, c'est une fracture informationnelle, qui là est encore beaucoup plus forte que chez nous. Depuis 8 ans, PiS a vraiment mis la main sur la plupart des médias, tous les médias d'État, mais également la presse locale. Et ils avaient même essayé de prendre le contrôle de la dernière chaîne privée indépendante du pays, qui était possédée par un groupe américain. Le gouvernement américain s'est opposé à cela, et donc finalement, ils n'ont pas pu le faire. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que beaucoup de Polonais n'ont accès qu'à une quasiment propagande d'État. Et donc, ça crée une fracture informationnelle très forte. Et je crois que si Donald Tusk prend le poste de Premier ministre, lui et le nouveau gouvernement au pouvoir vont avoir une responsabilité immense qui va être de ne pas simplement gouverner pour leur propre camp, pour leurs propres électeurs, mais de gouverner pour tous les Polonais et d'essayer de penser toutes ces divisions. S'ils ne le font pas, tu auras probablement un retour de bâton très fort et un retour des ultra-conservateurs au pouvoir beaucoup plus rapide qu'on ne le pense.
J'ai trois remarques par rapport à ce que tu dis. La toute première, c'est sur les divisions dans la société polonaise. Tu en as évoqué de nombreuses. Il y en a une qui est très frappante aussi lorsqu'on aime la géographie électorale. C'est la différence frappante sur une carte entre la partie du pays qui a été le plus longtemps sous joug russe et celle qui est plus occidentale. Là, vraiment, on voit une très grande différence. Alors, on pourrait réfléchir pourquoi. On peut imaginer que c'est un rapport au libéralisme, à la religion. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer cette différence. Mais ce qui est quand même frappant, c'est que plus d'un siècle après la fin de la Première Guerre mondiale, on retrouve encore ce genre de fracture évidente. La deuxième, quelque chose qui m'a fait un peu tiquer, mais dans ce que tu as dit au tout début, et qui en même temps mériterait un débat plus large. Si tu as dit, il y avait... Alors bien sûr, la Pologne est très à droite. Tu as rappelé que la principale force de gauche fait 9%, et donc quasiment tout le reste, en fait, est à droite. Et lorsque tu racontais l'état des différents partis en Pologne, tu parlais notamment d'un parti plus à droite encore que le PiS, Confédération, en disant un parti d'extrême droite et libertarien. Alors moi, en tant que libéral, je tique, parce qu'a priori, le libertarianisme et l'extrême droite... C'est absolument opposé. En revanche, on remarque dans de plus en plus de pays, en Pologne, en Argentine, en ce moment aussi avec un candidat très particulier, mais en même temps très intéressant, il y a parfois une synthèse entre un libéralisme très poussé, notamment pour ce qui concerne la place de l'État dans la société et les libertés publiques, d'une part, et en même temps, ce qu'on pourrait appeler en Europe, vu de chez nous, un certain nationalisme, c'est-à-dire des politiques assez dures, notamment concernant l'immigration, etc. Et je trouve que c'est une nouvelle symbiose, en fait, un nouveau mélange qui est, à mon avis, à de l'avenir au XXIe siècle. Est-ce que c'est un avenir positif ou négatif ? Je ne suis pas du tout dans un jugement qualitatif, mais en tout cas, c'est une tendance qui émerge, ce mix entre un libertarianisme de plus en plus poussé et la droite. Voilà, là où les libertariens ont longtemps été vus plutôt comme des gens parfois même imprégnés par un certain gauchisme culturel. Et le troisième point sur les médias, tu as parlé de cet opérateur privé, cet opérateur privé qui est aujourd'hui sous contrôle américain, c'est TVN, et dans le passé, il était sous contrôle, il y a plus de 15 ans, de Canal+, et qui était une chaîne d'information, une chaîne privée, un groupe privé polonais, que Canal avait racheté lorsque, dans les années, fin des années 2000, début des années 2010, il y avait des ambitions qui existent toujours d'ailleurs en Europe de l'Est. Et en plus, le clin d'œil était amusant à l'époque, puisque TVN, pour les fans de Canal de la première heure, c'était aussi le nom de la chaîne des nuls. Voilà, c'est une parenthèse, mais qui n'est pas sans importance, puisque l'Europe s'est emparée de ce sujet de la liberté des médias en Pologne. En réaction, elle a fait un texte qui s'appelle le Media Freedom Act, qui n'est pas le sujet de notre conversation aujourd'hui, mais qui est un texte qui présente, est une réponse totalement logique à cette situation en Pologne et en Hongrie, mais présente beaucoup de dangers pour nos acteurs de la presse en France et dans l'ouest de l'Europe. Et ma seconde auto-promo, j'ai publié la semaine dernière une tribune dans Contrepoint qui détaille ce point de vue. Mais voilà, je trouve que ces trois points géographiques, d'évolution politique et puis de médias que tu as mentionnés sont intéressants, et la Pologne est un exemple particulièrement révélateur.
Alors je reviendrai juste très rapidement sur ton second point et... En aucun cas, je considère que parce qu'on est libertarien, on est d'extrême droite. En plus, étant moi-même de philosophie libérale, je vais certainement pas faire cette assimilation. En revanche, je maintiens ma description, c'est-à-dire que c'est un parti effectivement d'extrême droite de par sa rhétorique ultranationaliste, quasi raciste, etc. Mais en même temps, effectivement, libertarien sur le plan des institutions, sur le plan économique. Et c'est effectivement là une rupture, par exemple, avec notre modèle en France, où on a aujourd'hui une extrême droite qui est effectivement, notamment sur le plan économique, à des années-lumière de toute forme de libéralisme. Donc je pense que ça montre plutôt le hiatus qu'il y a entre ces différentes extrêmes droites. Ensuite, juste pour revenir aux élections. Moi, je pense que ces élections ont été fondamentales parce que tu as eu, au-delà donc, du contexte qu'on a décrit, tu as eu une campagne qui a été extrêmement violente, extrêmement vicieuse, des attaques très dures entre les différents candidats. Et peut-être, en dépit de cela, mais aussi pour cela, tu as eu une mobilisation exceptionnelle. Il y a eu un taux de participation à plus de 74%, ce qui est 11 points que les élections précédentes, et le taux de participation le plus élevé depuis la fin de la chute du communisme. Donc ça montre en fait combien pour les Polonais c'était une élection fondamentale. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré toute la propagande d'État, il y a quand même une majorité de Polonais qui ont dit... Et malgré, par ailleurs, la prospérité économique du pays en général, malgré les promesses électoralistes qui ont été faites par le parti au pouvoir, qui ont dit « on refuse cette rhétorique, entre guillemets, de division de la société polonaise, on refuse cet affaiblissement à terme des institutions démocratiques polonaises, on choisit de rejeter, alors même si le terme est un peu employé à toutes les sources, une forme de populisme teinté de nationalisme. » Et donc, effectivement, dans le paysage actuel qui est plutôt teinté de beaucoup de mauvaises nouvelles, je trouve que c'est positif. Pour autant, comme je le disais, il y a des défis immenses qui vont se présenter au pouvoir polonais pour essayer de recréer des ponts entre les différents pans de la société polonaise. Juste un point aussi qui est essentiel. Intéressons-nous juste quelques instants à la figure de Donald Tusk, parce que nos auditeurs ne sont peut-être pas nécessairement très familiers avec qui il est. Donald Tusk, c'est quelqu'un qui a déjà été Premier ministre. Pendant 7 ans, il a été Premier ministre de la Pologne avant de partir à Bruxelles, où il a été président du Conseil européen entre 2014 et 2019, puis président du Parti populaire européen entre 2019 et 2022. Donc c'est quelqu'un qui connaît très bien les arcanes de l'Europe, à tel point d'ailleurs que le parti au pouvoir le caricaturait comme un Allemand. Il disait que finalement il n'était là que pour servir les intérêts de Bruxelles et de l'Allemagne, et que pour lui dire non, il fallait dire nein. C'était ce niveau de rhétorique hein, durant la campagne polonaise, dans un climat où le parti au pouvoir actuellement a développé une rhétorique extrêmement germanophobe mais aussi anti-française au cours des dernières années. Tusk, le fait qu'il connaisse l'Europe, et on en parlera dans un instant, ça va évidemment permettre de retisser des liens très forts entre Varsovie, Bruxelles et les autres capitales européennes. Mais une des grandes faiblesses historiques de Donald Tusk, quand il était notamment au pouvoir la dernière fois, c'était de couper toutes les têtes dans son propre parti. C'était quelqu'un qui n'avait pas permis l'émergence d'une nouvelle génération de leaders politiques. Et donc le résultat, c'est quand il était parti à Bruxelles comme président du Conseil européen, celle qui lui avait succédé comme première ministre polonaise, Eva Kopacz, n'était probablement pas préparée pour le job, avait été vue comme une leader assez faible, et donc ensuite, Pich avait triomphé aux élections. Un des grands défis de Donald Tusk, ça va être de permettre l'émergence d'une nouvelle génération de responsables politiques polonais qui seront à un moment donné capables d'incarner une alternative à cette figure prééminente de la vie politique polonaise.
Alors, je ne veux pas te doubler sur ta droite en termes d'optimisme, mais ce que je trouve vraiment réjouissant dans cette élection, c'est que les Polonais ont vraiment démontré par leur vote, en tout cas dans leur majorité, un grand attachement à l'état de droit. Et ça, il y a l'équilibre des pouvoirs, à la liberté de la presse, tout ce qui fait que nous sommes, en théorie, des démocraties libérales. Et ça, je trouve que c'est réjouissant parce que malgré des bons résultats économiques, malgré une sécurité quand même bien plus forte que dans nos pays, eh ben, les résultats sont plutôt bons, mais on valorise quand même toujours très fortement l'état de droit et les valeurs de la démocratie libérale. Alors la Pologne est un pays qui a été héroïque dans sa résistance, dans sa libération du communisme, donc on retrouve cet élan démocratique. Mais là où je crois, et c'est absolument pas ce que tu fais bien évidemment, mais j'ai lu quelques commentaires rapides en ce sens parfois en France, ce n'est pas non plus, sur le plan de la politique intérieure, un rejet absolu de la plateforme idéologique du parti PiS. On peut penser que sur les questions essentielles, celles de l'immigration, celle du refus polonais d'un certain multiculturalisme, d'un certain communautarisme perçu comme dominant dans les pays d'Europe de l'Ouest, là je crois qu'il ne faut pas mal interpréter la volonté majoritaire des Polonais. Ils ont quand même voté largement à droite, totalement à droite, et ces questions sont majeures. Et donc, au-delà de la science politique et du talent politique de Donald Tusk, il va devoir jouer avec une majorité diverse, variée, qui n'a pas à décevoir l'électorat polonais sur ces questions-là fondamentales d'immigration, de sécurité, parce que je crains que si c'est le cas, si ça glisse un peu vers un gauchisme culturel sous l'influence du petit parti de gauche présent dans la coalition, il y a un risque d'un retour de bâton terrible lors des prochaines élections présidentielles de 2025 et puis, bien sûr, législatives plus tard. Donc, c'est quand même un peu, je ne vais pas dire l'élection de la dernière chance, mais c'est quand même une épreuve de vérité très forte pour les forces libérales en Pologne et plus globalement en Europe.
Les points que tu soulignes sont vraiment essentiels. Moi, je trouvais que cette élection, effectivement, a été passionnante parce que tu avais l'exemple même d'un pays où aujourd'hui tu vas en Pologne, tu as un dynamisme économique incroyable, tu as une sécurité, tu te balades à Varsovie aujourd'hui à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, il ne t'arrivera jamais rien. C'est une ville incroyablement sûre. Et dans n'importe quelle ville polonaise, ça sera le cas. Et donc tu as aujourd'hui un certain nombre de fondamentaux qu'aujourd'hui on n'a plus en France. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité d'ascension sociale dans la société polonaise, il y a eu clairement un progrès économique, social pour les Polonais au cours des dernières années, sur le plan effectivement de la sécurité et de l'ordre public, il n'y a pas du tout les problèmes que l'on connaît chez nous. Et je pense qu'aujourd'hui, retournons la question, tu dirais à beaucoup de Français, on vous offre la sécurité, on vous offre l'ordre public, on vous offre de la prospérité économique en échange d'un affaiblissement d'un certain nombre d'institutions démocratiques, je crains malheureusement qu'un certain nombre de Français fassent ce choix-là. Or, les Polonais, ce qu'ils ont dit, et je trouve ça assez exemplaire, c'est de dire, bah oui, on est très attaché effectivement à l'ordre public, très attaché à la prospérité économique, mais il y a quelque chose qui s'appelle l'état de droit, qui peut paraître assez conceptuel, abstrait, mais qui en fait est absolument fondamental. Et donc, quand on affaiblit la justice comme l'a fait le parti au pouvoir en nommant des juges purement politiques, corrompus, quand on met au pas les médias, etc., oui, on touche à quelque chose de fondamental. Et donc là où je te rejoins complètement, c'est que je trouve que c'est un message très important envoyé par le peuple polonais et très courageux. En revanche, et tu l'as dit, et là je ne suis pas non plus en désaccord avec toi, je ne pense pas du tout qu'il faut anticiper un changement politique sur un certain nombre de points fondamentaux, notamment sur la question migratoire. Je reviens également de République tchèque. Il y a aujourd'hui un consensus dans la plupart des pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est pour considérer que leur modèle migratoire est probablement... ils considèrent qu'il y a une forme d'homogénéité dans leur société à laquelle ils sont attachés. Et qu'ils ne veulent absolument pas importer le modèle migratoire qui a été le nôtre au cours des dernières décennies. Et c'est quelque chose qui va au-delà des clivages politiques. Ce n'est pas simplement une position de droite contre la gauche. Il y a aujourd'hui une forme de consensus sur ces sujets-là. Il va y avoir aussi, si on veut parler d'éléments de continuité, la Pologne va continuer d'être extrêmement attachée à la relation transatlantique. Il ne faut pas penser pour nos entreprises notamment qui visent le marché polonais que parce qu'il y a un nouveau gouvernement plus pro-européen à Varsovie, d'un seul coup, les contrats vont être donnés aux entreprises françaises et européennes. Non, les Polonais vont continuer de faire du business avec les Américains, avec les Sud-Coréens qui depuis maintenant pas mal d'années utilisent le marché polonais comme porte d'entrée vers l'Europe. La différence, c'est que là où dans le passé des entreprises françaises, par exemple dans le nucléaire, dans le domaine des infrastructures, étaient écartées juste d'un revers de main, juste parce qu'elles étaient françaises ou européennes, désormais, si elles sont capables de montrer qu'elles sont compétitives par rapport à leurs concurrents américains, sud-coréens ou autres, alors elles auront une chance. Ça va être la différence. Et donc, oui, je suis entièrement d'accord avec toi, tu vas avoir des vrais éléments de continuité. Dernier point, je pense que c'est pas simplement sur la question migratoire, qu'il pourrait y avoir un retour de bâton s'il y avait un changement de politique, c'est également sur un certain nombre de réformes sociétales. Je pense que Donald Tusk et ceux qui l'entourent devront aussi comprendre que la Pologne, ce n'est pas simplement la Pologne très progressiste, même si je n'aime pas nécessairement ce terme, des centres-villes de Varsovie, Gdansk, Katowice. Il y a aussi une Pologne qui est plus conservatrice sur un certain nombre de questions sociétales. Et ces gens-là, il ne faut pas les mépriser, il ne faut pas juste leur dire qu'ils n'ont rien compris, il faut peut-être plus prendre en compte leur avis. Et je pense que là, c'est aussi quelque chose où Donald Tusk, s'il est capable d'écouter cet électorat, montrera qu'il n'est pas simplement un brillant politicien, mais un homme d'État.
L'autre incidence de ce scrutin, surtout si la coalition devait fonctionner, on n'en a pas encore parlé vraiment, mais c'est sur la guerre en Ukraine. Avec une position de l'ancien pouvoir... assez ambigu, enfin qui est devenu assez ambigu avec le temps. C'est-à-dire que le PiS était fondamentalement dans son ADN assez anti-russe. Donc ils ne sont pas totalement comparables avec la politique d'Orban en Hongrie qui, elle, est très marquée pro-russe. Mais en même temps, face au progrès, notamment dans les sondages du parti coalition, donc celui qu'on mentionnait d'extrême droite, qui était vraiment, lui, beaucoup plus confus dans sa position, et encore j'utilise un euphémisme, mais qui en gros voulait que la Pologne change radicalement de politique, aide beaucoup moins l'Ukraine, voire plus du tout, et arrête d'être dans ce conflit, face au succès, bon, qui a été relatif, parce que ce parti, il faut le dire, n'a fait que 6%, hein, 6-7%, mais face à ce succès dans les sondages de ce parti, durant la campagne, Piche a un peu retourné sa veste vis-à-vis de l'Ukraine, là où on peut penser, est-ce que ce sera radical ou pas à voir, que le nouveau pouvoir, le nouveau gouvernement sera dans une ligne beaucoup plus nette, beaucoup plus atlantiste, beaucoup plus européenne, et donc soutenant davantage l'Ukraine.
Alors oui, je suis d'accord avec toi sur le fait que la Pologne va, sous le nouveau gouvernement, continuer de soutenir sans ambiguïté l'Ukraine. Et ça, effectivement, sur le plan militaire, sur le plan économique, je pense qu'il n'y aura aucune ambiguïté. Néanmoins, je pense que quelque chose que l'on perçoit, nous, assez mal, c'est qu'en fait, les Polonais connaissent beaucoup mieux l'Ukraine que nous la connaissons. Et donc, à la fois, ils ont un attachement très fort qui est lié à leur histoire, à leur proximité avec les Ukrainiens, évidemment à leur rapport à la Russie, mais ils ont aussi... une absence totale d'illusion que nous, nos élites bien-pensantes qui ne connaissent pas l'Ukraine, peuvent avoir. Et donc, quand tu parles à des Polonais, y compris dans ceux qui vont former le nouveau gouvernement ou des élites libérales en Pologne. Ils sont les premiers à souligner que l'Ukraine est un pays qui est rongé par la corruption, que ça ne va pas disparaître demain, que c'est un pays où l'État est structurellement faible et que, dans toute perspective d'élargissement, penser qu'on peut avoir une Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui et faire rentrer l'Ukraine dedans est une pure illusion. Et donc je pense qu'on va avoir aussi des partenaires à Varsovie qui, sur cette question-là, vont être probablement beaucoup plus pragmatiques et moins idéologiques. Et je pense qu'on aurait tout intérêt à aller écouter nos partenaires polonais et avoir une discussion pour essayer de comprendre, de par leur perspective, vraiment ce que l'on peut bâtir avec Kiev ou ce que l'on ne peut pas bâtir. Donc je pense que, de ce côté-là, il faut quand même aussi... à mon avis, être plus lucide sur ce qu'est la perspective polonaise sur Kiev. L'autre chose qui, en revanche, est une bonne nouvelle, c'est que tu as ce format de coopération, tu sais, qu'on appelle le triangle de Weimar. En diplomatie, on adore les acronymes ou les noms pour désigner des formats de coopération. Le triangle de Weimar, c'est un format de coopération qui a été... qui est né dans les années 90 et qui réunit la France, l'Allemagne et la Pologne. Et au cours des dernières années, ce forum était quasiment inexistant du fait des relations délétères entre les capitales de ces trois pays. Là, avec ce nouveau gouvernement en Pologne, ce que tu risques d'avoir, c'est un format de coopération beaucoup plus fort, avec une Pologne qui va vouloir s'appuyer sur ce trépied pour jouer un rôle plus important au niveau européen. Et donc, à l'axe Paris-Berlin, qui fait face à toutes les difficultés que l'on connaît et sur lesquelles on a souvent échanger, tu risques d'avoir de plus en plus un trépied entre Paris, Varsovie et Berlin. Et je pense qu'un des enjeux pour la diplomatie française sera être capable de naviguer correctement ce trépied, d'être capable sur certains sujets de parfois bâtir une alliance forte avec Varsovie pour être capable ensuite de faire prévaloir ses vues au niveau européen.
Ça aussi, c'est une des conséquences très importantes, une bonne nouvelle issue de ce scrutin. Tu sais, quand on est bonapartiste, on a forcément la une sympathie naturelle pour la Pologne. Et donc, c'est une bonne nouvelle qu'un partenaire de poids avec une telle influence, qui à terme va devenir une des principales armées, ça aussi, il ne faut pas l'oublier, d'Europe, c'est une bonne nouvelle qu'un nouveau pays de poids arrive, et d'autant plus si ce pays reprend des positions attentistes. Il ne faut pas oublier que Donald Tusk, tu as rappelé son parcours, sa très bonne connaissance des institutions européennes, malgré parfois certaines limites politique, c'était aussi un des patrons du PPE, une des grandes figures du PPE en Europe, qui est une famille politique les élections européennes, on aura bien sûr l'occasion d'en reparler, mais qui est un peu à un tournant avec des différents mouvements. On sent bien qu'il y a, alors qui aujourd'hui est représenté aussi bien par des partis conservateurs en Espagne ou en Italie, un peu en France, que par, on va dire, une aile beaucoup plus centriste, très incarné par la présidente de la Commission. Et donc, c'est une coalition idéologiquement, enfin politiquement assez solide, à voir ce que donneront bien sûr les élections européennes, mais idéologiquement, qui a de fortes tensions. Et donc, d'avoir de nouveau sur la scène internationale un très bon connaisseur de cette famille, quelqu'un qui s'en sent véritablement membre, eh bien, ça peut amener, je crois, à certaines clarifications, en tout cas à de nouveaux équilibres. Et là, je crois que pour cette famille politique-là, on va voir ce qui va se passer. Il va y avoir une concurrence à droite, et je ne parle pas forcément des droites populistes, je pense une concurrence idéologique très forte. Et donc, que l'aile libérale, et là c'est le libéral qui parle, mais que l'aile libérale du PPE, représentée par Tusk, qui était d'ailleurs assez ami à l'époque avec une personnalité comme Berlusconi, hein, que de voir cette aile libérale du PPE renforcée, je pense que dans les débats internes à cette famille politique, là aussi, c'est une bonne nouvelle.
Mais je pense que ça a une conséquence au sein du PPE, mais plus généralement sur le paysage politique des groupes politiques européens qui sont peu connus en France, mais qui sont fondamentales au niveau de l'évolution de l'Union européenne. Parce que ce que l'on observe depuis maintenant quelques années, c'est une bataille des droites au niveau européen. Et grosso modo, tu as un PPE où tu as effectivement différentes sensibilités de droite, mais on va dire que c'est la droite qui va de la droite libérale, de centre-droit, à une droite plus conservatrice, traditionnelle, mais qui réunit, qui va de la CDU allemande, tu parlais de Forza Italia, et effectivement la plateforme civique, donc et LR côté français. Et puis tu as un autre groupe politique qui est plus à droite au sein du Parlement européen, qui est ECR, et là où tu avais le parti PiS, donc le parti Droit et Justice, et tu as aussi le parti de Meloni. Et en fait, une des grandes questions, c'est un peu de savoir laquelle de ces familles politiques va demain jouer un rôle déterminant au sein du Parlement européen. Jusqu'à présent, ça a toujours été le PPE, mais clairement, la victoire de Tusk renforce considérablement le PPE par rapport à l'autre groupe, donc le groupe ECR au Parlement européen. Et donc, c'est d'un côté une bonne nouvelle pour cette droite, on va dire, c'est difficile de la caractériser, mais on va dire droite libérale, centre-droit, par rapport à une droite beaucoup plus nationaliste représentée par ECR. Mais ça nous pose aussi, nous, une question française. C'est que si LR aux élections européennes ne passe pas la barre des 5%, ça veut dire que la France n'aura plus de représentants au sein du groupe PPE. Et donc n'aura plus de représentants au sein du groupe politique qui sera probablement le plus influent dans le Parlement européen de demain. Et donc pour la France, ça pose une vraie question d'influence à Bruxelles.
Oui, alors il y a la question du nombre, et puis il y a la question donc quantitative, puis il y a la question qualitative. Mais ça, on l'a déjà évoqué. Il faut aussi que la droite française envoie des personnalités qui veulent jouer, on va dire, tout leur rôle au niveau européen, qui s'impliquent dans les débats, qui se battent, qui discutent. On pense ce qu'on veut de ces idées, mais François-Xavier Bellamy est un excellent exemple en la matière, puisque c'est quelqu'un qui a su se faire respecter, qui, en un mandat, est apparu sur la scène, et puis il parle d'idées. Parfois, il y a quand même quelques touristes ou passagers clandestins dans ces groupes qui voient l'Europe comme une maison de retraite ou un passe-temps en attendant de revenir sur la scène nationale. On a vu récemment encore deux nouveaux sénateurs français qui étaient jusqu'à présent députés européens. Ben, du moment qu'ils ont pu trouver un poste de sénateur en France, ils ont bien sûr lâché leur poste de député européen après un mandat finalement assez peu flamboyant. Donc il y a aussi la question quantitative et qualitative. Après tout, les élections européennes vont aussi servir à ça et elles seront très intéressantes à suivre de ce point de vue-là, à condition que les partis politiques, là aussi, jouent le jeu de faire une campagne sur le vrai sujet, c'est-à-dire l'Europe. Et je crois qu'ils auraient vraiment tort de ne pas la faire, puisque si on regarde les précédentes élections, on dit toujours les Français répondent à côté aux questions qu'on leur pose. C'est totalement faux. Quand on regarde les précédentes élections européennes, ils ont généralement primé, dans un sens ou dans l'autre, les partis, les formations politiques qui faisaient l'effort de parler d'Europe. Prenons l'exemple, je crois que c'est en 2009, un François Bayrou qui pourtant ressortait d'une très bonne campagne présidentielle en 2007, qui est censé représenter une famille a priori très européenne, très centriste, avait choisi de faire campagne davantage contre Nicolas Sarkozy sur des aspects de politique intérieure, et ben ça avait été un échec, sa campagne. Donc je crois que d'un point de vue intellectuel, mais également d'un point de vue moral et d'un point de vue de la nécessité politique, il faut que les formations politiques qui enverront des candidats, créeront des listes pour les prochaines élections européennes, parlent d'Europe et parlent vraiment d'Europe.
Je suis sûr que nous reparlerons de tous ces sujets, Romain, mais étant un indécrottable diplomate, tu me permettras de revenir sur la Pologne et sur des sujets de dynamique européenne. Sur la Pologne, juste, un point qui me semble important quand même pour nos auditeurs, c'est que le nouveau gouvernement et la nouvelle majorité en Pologne ne vont pas avoir une marge de manœuvre totale. Parce que ce qu'il faut bien qu'on comprenne, c'est qu'un certain nombre d'institutions clés vont rester dans les prochains mois, les prochaines années, aux mains du pouvoir actuel, donc du Parti Droit et Justice. C'est le cas du Tribunal constitutionnel, c'est le cas de la Cour suprême, et ça va prendre beaucoup de temps, mais c'est aussi le cas de la Banque centrale, qui a joué un rôle qui était loin d'être indépendant, jusqu'à notamment durant la campagne électorale. Et puis c'est le cas, tu le rappelais au début de cet épisode, de la présidence, qui est aujourd'hui contrôlée par Andrzej Duda, et il y aura de nouvelles élections présidentielles en 2025, qui seront un peu des mid-term quasiment. Donc ça, c'est un premier point qu'il faut bien avoir en tête. Et puis le deuxième point en termes de dynamique européenne, c'est qu'on parlait tout à l'heure du triangle de Weimar, mais la réactivation du triangle de Weimar, ça veut dire aussi qu'à l'inverse, il n'y aura pas la réactivation, et c'est ce qu'on craignait un peu dans pas mal de capitales européennes, d'un axe qui aurait pu être un axe de blocage majeur de l'Union européenne, qui était l'axe entre la Hongrie d'Orban, la Pologne de Kaczynski, et puis on n'en a pas parlé parce qu'on a le sentiment que c'est un petit état au niveau de l'Union européenne, mais c'est quand même des élections très significatives. La Slovaquie, où Robert Fico, qui est un ancien Premier ministre slovaque, pro-russe, qui n'a absolument pas caché ses accointances avec le Kremlin, y compris depuis le début de la guerre en Ukraine, est revenu au pouvoir. Et donc tu aurais pu avoir une quasi-reconstitution totale du groupe de Visegrad, République tchèque mise de côté, qui n'aura pas lieu. Donc ça, c'est une dynamique importante. Et puis troisième point, juste ça peut-être plus par curiosité intellectuelle pour certains de nos auditeurs, on disait que Donald Tusk a une vision européenne qui se rapproche probablement beaucoup plus de celle qu'il y a aujourd'hui à Paris ou Berlin sur bien des sujets. À l'inverse, il y avait eu un discours dont on n'avait pas du tout parlé, mais qui avait été important, qui avait été prononcé en mars 2023 par l'actuel Premier ministre polonais Morawiecki, qui était un discours prononcé à Heidelberg, qui se voulait un peu le pendant du discours de la Sorbonne de Macron ou du discours de Prague de Scholz, et qui en fait dessinait la vision d'une Europe extrêmement nationaliste. Et je pense que ce discours, même si ce Premier ministre va quitter le pouvoir, demeure important parce qu'il est un peu la matrice intellectuelle au niveau européen de pas mal de droites nationalistes ultra-conservatrices. Et donc je pense que c'est un peu le rejet de cette droite qu'il y a eu dans les élections en Pologne. Il faut quand même le garder en tête parce que cette matrice n'est pas pour autant morte et elle pourrait nourrir de futurs dirigeants européens dans les années à venir.
Ben, on en reparlera, on fera aussi des distinctions peut-être plus sémantiques, plus idéologiques entre ce que tu appelles les ultra-conservateurs, ce qu'on peut aussi appeler parfois, et ce ne sont pas nécessairement les mêmes personnes justement, les réactionnaires. L'Europe, le jeu politique européen, forcément est très dépendant du contexte international, ce qui se passe au Proche-Orient. Il faut bien sûr espérer qu'on évitera le pire lors des prochains mois, mais il y a quand même des risques aujourd'hui sur la sécurité des Européens qui sont majeurs. Tout cela risque d'avoir une grande influence dans la recomposition, décomposition du paysage politique et les élections européennes participeront d'une clarification ou pas et de nouvelles alliances, mais ça va être notre grand sujet pour 2024, ça, Jérémy. Donc on aura tout le temps d'en reparler. En tout cas, c'était, je pense, important aujourd'hui qu'on s'arrête un peu sur la Pologne, parce que parfois, oui, les élections à l'étranger, en quoi ça nous intéresse, en quoi cela peut avoir une influence directe pour nous. Et alors, bien sûr, ce n'est que de la politique, mais on voit bien toutes les conséquences d'un scrutin, même à plusieurs centaines de kilomètres de la France.
Tout à fait. Et je pense que c'est une très bonne nouvelle pour la France d'avoir à nouveau un partenaire à Varsovie qui est prêt à bâtir des choses avec nous, qui sera un partenaire qui demeurera très exigeant. Il ne faut pas du tout penser que la Pologne sera nécessairement alignée sur toutes les positions de la France, loin de là. Mais ça sera un partenaire plus constructif et avec lequel, je pense, nous avons beaucoup de choses à bâtir au niveau européen. Donc c'est une très bonne nouvelle pour l'Europe, c'est une très bonne nouvelle pour la relation transatlantique également. Et puis effectivement, maintenant, on va voir comment le paysage politique européen va évoluer dans les prochains mois. Et ça sera l'objet de prochains épisodes.
Eh bien, donc à très bientôt, Jérémy, à très bientôt à nos auditeurs pour des prochains épisodes. Restez attentifs. Suivez bien les notifications de votre plateforme d'écoute favorite, puisque, comme on le rappelait en ouverture de notre dernier épisode, nous changeons un peu de rythme en cette année, en ce second semestre 2023. Nous ferons des épisodes toujours engagés, réguliers, mais qui ne paraîtront pas nécessairement le mercredi, et nous ferons un peu selon l'actualité. Donc probablement, dans quelques semaines, Jérémy, selon les vicissitudes de l'actualité.